comme l'étoile est très petite, eh bien, les planètes laissent une grosse trace. Elles passent juste devant. Les planètes ont la taille de la Terre. Elles font un gros transit. Et quand on a un transit relativement important, ça devient relativement facile d'aller chercher des détails, comme par exemple l'effet de l'atmosphère autour de ces planètes. Alors, on ne l'a pas encore fait, parce qu'on n'a pas encore regardé avec le bon télescope, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et ça, c'est unique au monde. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est vraiment quelque chose qui va, quelque part, apporter une nouvelle information sur le monde des exoplanètes, qui est, en fait, est-ce que les planètes qui ont à peu près la densité de la Terre, donc probablement qui ont des structures identiques à celles de la Terre, est-ce qu'elles ont toutes des atmosphères? Et si elles ont des atmosphères, quelle est la nature et la structure de leur atmosphère?
39 années-lumière, qu'est-ce que ça représente en année terrestre?
En fait, en termes astronomiques, c'est vraiment tout près, mais c'est vrai, en termes humains, c'est extrêmement éloigné. Donc là, on parle de distance astronomique. Dès que vous voulez aller vers une autre étoile, vous êtes déjà à des distances qui sont inhumaines. Donc il faut complètement oublier la notion de distance. Par contre, quand vous comparez les distances de ces étoiles avec les distances de toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie, alors elles sont extrêmement proches, parce que la galaxie, elle a 100 millions d'années-lumière de taille. Et puis l'univers, il a à peu près 16 milliards d'années-lumière de taille. Donc vous voyez, là on est vraiment tout autour de nous, dans la banlieue autour du système solaire.
Est-ce qu'il est possible donc qu'il y en ait certaines qui soient habitables?
On en a 3 qui sont dans la zone habitable. Mais encore une fois, ça ne veut absolument rien dire, parce que par exemple, Vénus sur notre système solaire est dans la zone habitable et on ne peut pas y habiter parce que l'atmosphère de Vénus ne permet pas d'y vivre. Donc en fait, je crois que c'est là l'avancée exceptionnelle qu'il y a avec cette découverte, et ça, on pourra le faire. Et ça, c'est une première mondiale. Ça n'était pas possible, ça ne sera pas possible pour toutes les autres planètes qu'on a trouvées, mais c'est effectivement possible pour celle-ci. Donc demain, on va vraiment avoir une démarche scientifique, et à partir des données, on va tirer des conclusions, et là, on va pouvoir avoir un modèle de l'atmosphère de ces planètes, et là, on pourra répondre à votre question.
Et est-ce que la présence d'eau implique automatiquement la présence de vie?
Personne ne sait rien par rapport à ça. La seule chose que l'on constate, c'est qu'il y a de l'eau sur Terre et il y a de la vie. C'est la seule chose que l'on sait. Maintenant, l'eau, c'est une molécule banale. On voit de l'eau partout dans l'univers. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'eau, c'est vraiment très simple. C'est hydrogène et oxygène. L'oxygène, c'est un des sous-produits de la formation stellaire. Puis l'hydrogène, il est partout depuis le début dans l'univers. Donc l'eau, il y en a partout. Il y en a dans le système solaire, il y en a partout. Ce qui est important, par contre, de réaliser, c'est que quand vous avez une planète comme la Terre, l'atmosphère que vous avez sur la planète, c'est pas l'atmosphère originale, c'est une atmosphère transformée, parce qu'au début elle est beaucoup trop chaude, quand elle se forme, et puis elle évolue après la surface de la planète. La preuve, sur Terre, on a eu beaucoup de climats qui ont varié au cours de toute l'histoire de la Terre. Donc en fait, la structure et la nature et la composition de l'atmosphère vous dit quelque chose sur l'histoire et ce qui se passe sur cette planète. Donc l'eau, on s'attend à la trouver. Si on la trouve pas, ça pose des questions. Ça va par exemple nous dire, ben voilà, si on n'a pas d'eau sur cette planète, ça veut dire que l'eau, quelque part, elle doit être amenée, elle doit arriver. Et il y a effectivement une théorie sur Terre qui dit que peut-être que l'eau qu'on a sur Terre, elle est venue des comètes qui sont tombées sur la Terre. Vous voyez, toutes ces questions, on peut commencer à y répondre. Donc c'est dans ce sens-là que c'est très intéressant d'aller voir s'il y a de l'eau sur ces planètes, c'est que ça nous apporte quelque part un élément d'information sur notre propre histoire également.
C'est une découverte extraordinaire en effet, mais vous vous attendez à quoi maintenant?
Alors il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est qu'avec ce système, on a démontré par des éléments statistiques qu'il y en a beaucoup, et probablement toutes les étoiles qui sont semblables, elles ont des planètes, donc on va probablement en trouver beaucoup d'autres, parce qu'on a maintenant des expériences qui ont commencé, qui vont chercher d'autres, donc on ne va pas simplement avoir cette planète, on va en avoir beaucoup bientôt. Et puis en 2018 sera lancé le télescope James Webb Space Telescope, qui est un outil absolument exceptionnel pour nous, et grâce à ce télescope, on va aller justement mesurer la composition de l'atmosphère. Donc peut-être qu'on n'aura pas besoin d'attendre jusque-là, peut-être que des mesures qui seront faites avant grâce au télescope spatial Hubble, peut-être permettra déjà de nous donner une petite idée, parce qu'actuellement, on mesure cette étoile avec le télescope spatial, dans l'objectif d'essayer d'aller dire quelque chose sur leur atmosphère. Donc c'est très difficile d'arriver à prédire ce qui va se passer, mais ce qui est parfaitement sûr, c'est qu'on va avoir le contenu de l'atmosphère de toutes ces planètes. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Je n'en sais rien. On pourrait très bien réaliser qu'elles ont toutes des atmosphères et puis que 3 ou 4 ont de l'eau liquide, comme on pourrait très bien réaliser que toutes n'ont aucune atmosphère et qu'elles sont complètement sèches parce que, dû à leur histoire et dû à la radiation de l'étoile, l'atmosphère, elle a disparu. Vraiment, ça fait partie de l'exploration scientifique. On a entamé une aventure. L'aventure n'est pas terminée. Elle commence et on emporte le public avec nous pour les amener au fil de la découverte. Et c'est comme ça que la science se passe.
Alors, Trappiste, les fameux moines Trappiste, et puis c'est un nom de bière, et puis le projet aussi Spéculo, c'est un nom de biscuit belge.
Alors oui, alors il y a une grande tradition belge, ça c'est mes collègues belges de Liège qui m'ont dit, en Belgique il y a une tradition d'utiliser des noms alimentaires pour décrire des instruments. Chaque pays a sa propre tradition. En France, en principe, c'est des noms féminins hein, pour les instruments. En Belgique, c'est des noms alimentaires. Donc, comme ce projet a été initié par Michael Gillon de Liège, eh bien, c'était un petit privilège de proposer ces noms-là, et moi j'ai trouvé ça absolument génial, donc on était tous très enthousiastes d'appeler le premier télescope Trappist, puis après maintenant l'ensemble des télescopes qu'on construit maintenant, on les appelait Spéculoos. Donc je ne sais pas quel sera le nom de la prochaine invention que l'on va avoir, mais sûrement on va rester dans les noms alimentaires. On a encore une longue liste, hein, on peut y aller encore.